auditeurs, bonjour en votre compagnie, Salsa Bertin, pour le Libre Journal éponyme. Alors aujourd'hui, je vais sortir de mes sujets aussi. Alors en partie, hein, il y a une grande partie sur de mes sujets, mais une autre partie, j'ai un peu mes dadas qui seront là. Et on va mettre à l'honneur un homme, parce que les thèmes, on va essayer voilà, de lui faire honneur et d'avoir une véritable vision, en même temps qu'une vision journalistique, autour de thèmes qui ne sont hélas pas gays, mais l'actualité ne l'est pas non plus. Et puis, le monde a toujours très mal tourné, certes. Mais là, peut-être que nous sommes à un tournant critique. Et pour aider à faire accoucher, comme aurait dit le fondateur de cette radio, mon invité, j'ai mon chroniqueur qui, cette fois, va intervenir tout au long de l'émission, je l'espère, Ludovic Joubert, qui, bien sûr, nous ravira également avec sa chronique des mots à tiroir. Bonjour Ludovic, déjà.
Bonjour Salsa, bonjour Slobodan Despot.
Et voilà, et c'est Slobodan Despot, notre invité qui va éclairer les thèmes que nous avons choisis. Alors, le thème général, c'est l'effondrement de l'Occident. Alors, j'y mettrai un point d'interrogation, si vous voilà, pour essayer d'adoucir le propos. Et le cancer de l'affaire Epstein, alors est-ce que ce sont des métastases ou est-ce que c'est vraiment le fond du cancer qui remonte et qui crée des métastases un petit peu partout? Voilà, et pour parler de l'effondrement de l'Occident, je me suis dit que cette illustration était particulièrement intéressante. Slobodan, bonjour.
Mais bonjour Salsa.
Merci d'être là avec nous, de Suisse. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui viennent de naître, un peu selon la formule consacrée ici, parce qu'il naît des auditeurs tous les jours, vous êtes écrivain. Et vous avez été pendant bien longtemps éditeur d'une maison d'édition très très chère à Radio Courtoisie qui s'appelait L'Âge d'Homme.
Oui.
Et puis ensuite éditeur de Xenia, voilà. Et oui. Aujourd'hui, vous êtes directeur et fondateur d'un organe de presse qui s'appelle L'Antipresse, qui nous donnera d'ailleurs l'occasion de mener aussi une réflexion sur l'identité de la presse, la substantifique moelle de la presse, car aujourd'hui elle est bien écornée, en tout cas son image et même son savoir-faire. Et puis vous êtes serbe. Suisse, d'origine. Vous vivez en Suisse, voilà, serbe d'origine, oui. Et vous êtes suisse. Mmh. Et puis, vous continuez l'écriture, vous êtes aussi romancier. Et il y a deux romans dont on parlera un peu, surtout un qui s'appelle Le Rayon Bleu, que je peux déjà montrer à l'antenne pour ceux qui nous suivront ensuite sur YouTube, chez Gallimard. Voilà, deux romans de Gallimard. Et il y a le miel également, dont on parlera moins aujourd'hui. Le rayon bleu, entre bien dans nos thèmes, et on verra dans un moment pourquoi. Voilà, que de qualité, mais toujours la vision d'un homme. Qui, à travers le journalisme et à travers l'édition, porte un regard critique avec ce qu'il est, avec ce que les gens de son équipe sont, parce que je crois que vous êtes une équipe de 4 à l'Antipresse, avec votre regard que vous portez sur le monde et votre expérience. Voilà, alors Slobodan Despot, j'aimerais que, pour entrer peut-être tout de suite dans le vif du sujet, on dise un tout petit mot de votre vocation qui n'a pas été la vocation la plus facile, parce que l'édition, hein, quand même un sacerdoce, le dire. Surtout à l'âge d'homme. Moi, j'ai un peu connu l'âge d'homme quand j'étais alors très très jeune, même adolescente, j'ai connu l'âge d'homme. Et puis après, un peu après, et il fallait beaucoup de courage pour sortir des pépites. Et vous avez été notamment l'éditeur de Zinoviev. Et puis, bien sûr, on avait Vladimir Volkov, etc. Des gens que nous allons beaucoup citer parce que j'ai décidé de beaucoup m'appuyer sur leurs pensées pour vous interroger. Qu'est-ce qui a présidé à ce parcours héroïque, vous dire aujourd'hui ?
Alors, d'abord, je suis très ému que vous commenciez par cela, parce que et que cela se fasse depuis Radio Courtoisie, depuis votre studio, où malheureusement aujourd'hui je ne suis pas et je le regrette bien, parce que à l'époque, donc dans cette vie antérieure qui était celle de l'âge d'homme à la fin du XXe siècle, nous étions avec les auteurs de l'âge d'homme, avec le patron Vladimir Dimitrievitch, très souvent invités à Radio Courtoisie. Par Jean Ferré, par des patrons d'émissions, etc. Et il y a eu des moments mémorables. Je me souviens être venu notamment avec Alexandre Zinoviev pour lui servir d'interprète. Enfin, c'était pour nous pour moi, ce sont des souvenirs lumineux. Et c'était aussi une époque c'était une époque, vous l'avez dit, difficile, parce que ce que nous avions à dire, nous, en tant que quand même transfuge du monde de l'Est, de l'Europe, qui était à l'époque totalitaire, ce que nous avions à dire n'était pas forcément audible ou compréhensible pour tous. Et je dois dire qu'à Radio Courtoisie et Amicale, et même patiente, ce que nous avions à témoigner, ce dont nous avions à témoigner, parce que ce dont nous avions à témoigner à l'époque, donc jusqu'il y a quelques années ici en Occident, n'était même pas compréhensible, parce qu'on ne l'avait pas vécu. Aujourd'hui, on commence à vivre des choses qui sont analogues à celles qu'ont vécu les Européens de l'Est, mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Donc, d'où vient cette vocation ? Écoutez, c'est presque un accident. Je voulais faire du cinéma, moi, à l'époque. À l'époque de mes études, j'ai tenté d'entrer dans l'Académie du cinéma de Prague, et puis ils ne m'ont pas reçu parce que c'était encore l'Europe de l'Est et qu'ils ne prenaient pas des Suisses. Et puis, bon, pour ne pas perdre mon temps, je me suis inscrit à l'université. Et étant à l'université en Suisse, je me suis rendu compte très tôt que l'enseignement que j'y recevais et la philosophie qui le sous-tendait étaient catastrophiques. Catastrophiques. C'était, à mes yeux, moi qui avais été formé plutôt dans de très bonnes écoles traditionnelles, catholiques, en Suisse, c'était un anti-savoir, c'était une déconstruction de tout ce que l'on pouvait dire de sûr et de fiable sur notre propre civilisation, sur notre identité, sur ce que nous étions. Je me suis senti étranger à ce milieu et je me suis rapproché de la maison d'édition de l'Âge d'Homme, qui était basée, comme vous le savez, à Lausanne, et qui avait donc ses bureaux à Paris aussi. Et j'ai commencé à faire des traductions. De fil en aiguille, je suis devenu directeur de collection, directeur adjoint de l'Âge d'Homme, etc. Et c'est là que j'ai eu l'occasion, comme vous l'avez rappelé, de rencontrer, de fréquenter ou de traduire des personnages comme Vladimir Volkov, comme Alexandre Zinoviev, mais aussi des écrivains suisses ou français qui étaient, à mon avis, des grands écrivains, comme Georges Aldas, par exemple, et des Parisiens comme Alain Pocard, enfin, beaucoup de monde, beaucoup de liens, et puis une école de pensée et une école de vie qui était très dure. Vous avez raison, c'était une vie qui était dure, c'était une vie qui était toujours confronté à l'adversité, parce que l'officialité médiatique, académique ne nous était pas favorable, et dans laquelle il fallait construire son chemin soi-même, tout seul, et apprendre à non seulement encaisser les coups, mais également à expliquer, à toujours expliquer, à toujours dire pourquoi on n'est pas comme les autres, pourquoi on est des punks, nous passions pour des punks à l'époque, à l'âge d'homme. C'était pas par un choix délibéré ou par dandysme, c'est tout simplement parce que la liberté de penser impose également de déplaire, et même de se déplaire quelquefois à soi-même. Donc voilà, en gros, si vous voulez, mon très bref CV intellectuel, il est là. Et j'ai eu une longue, dure et très fructueuse école de vie, effectivement, et de métier, avec l'âge d'homme.
Mais vous savez, Slobodan Despot, qu'il y a l'art aristocratique de déplaire. Et pourtant, les femmes aiment plaire et je préfère, pour ma part, l'art aristocratique de déplaire. Voyez. Donc, il ne faut pas regretter. Il ne faut pas regretter. Et alors, aujourd'hui, alors, Ludovic hein, intervient quand il veut. Aujourd'hui, c'est la presse qui vous occupe. Il y a 10 ans, à peu près, hein, vous avez fondé l'Antipresse. C'est un magazine, je dirais une revue plus
Une
exactement,
revue,
puisque
oui.
c'est une revue à la fois journalistique, mais vraiment d'analyse. Et c'est du journalisme à la Kessel, à la, voilà, où on donne un avis éclairé, voilà, et on informe, mais on donne un avis éclairé avec sa patte, en fait, comme celle de l'écrivain, d'une certaine manière, mais d'une manière journalistique, avec une écriture journalistique. Et c'est donc un journalisme personnalisé. Et aujourd'hui, dans cet effondrement de l'Occident, il y a l'IA qui arrive et qui crée un journalisme automatisé. Et moi qui vis dans ce milieu du journalisme et de la communication, beaucoup, beaucoup. Les jeunes générations arrivent et elles mettent tout dans l'IA. Et la génération au-dessus, les cadras, les jeunes quinquas, etc. Toute ma génération qui les dirige, eux, mettent ça dans leurs assistants, ce qu'ils appellent leurs assistants. Et on a une information automatisée, mais qui est l'inverse du journalisme, en fait. Puisque le journalisme, moi, j'ai toujours eu cette vocation enfant, mais finalement, ici, en Occident, il y a longtemps qu'on ne peut plus vivre cette vraie vocation journalistique. Avec les uns, parce qu'il n'y a pas de moyens, donc ils peuvent nous envoyer nulle part, bon, voilà. Et avec les autres, des gangs qui ne permettent pas de faire émerger la vérité, ou parce qu'il y a la publicité, ou parce que ça dérange, et aussi parce qu'aujourd'hui la presse conventionnée appartient à des milliardaires et à des gens qui ont d'autres intérêts. Voilà. Donc, la presse est très, et le métier de journalisme est très, très, très mis à mal. Il est devenu presque impossible de le faire. Et ce qui m'effraie le plus, et ça, je vous le confie, je voudrais votre regard dessus, Slobodan, ce journalisme aujourd'hui automatisé. Alors que nous, on est là pour justement, on est. Il y a une charte des journalistes et il y a des cartes, il y a tout ce que vous voulez, et on a une déontologie. On est aux antipodes de l'influenceur, par exemple. Il y a une déontologie. Et c'est parce qu'on est allé faire parler des gens, c'est parce qu'on est allé sur place, c'est parce qu'on a vécu les choses, c'est parce qu'on a été témoin qu'on peut accréditer et que notre témoignage est crédible. Et puis ensuite, avec ce que l'on est, on va essayer d'éclairer les événements et on va analyser. Mais ça, bah c'est l'inverse avec le journalisme de l'IA et de l'automatisation. Donc c'est le royaume de, pardon pour Radio Courtoisie, le petit cochon qui est là, le royaume de la fake news. Voilà. Alors Slobodan, votre regard sur ce sujet.
Alors évidemment, ce regard, j'ai essayé, nous avons essayé de le sublimer, de le concentrer dans le concept même de cette revue, qui est une revue hebdomadaire. D'ailleurs, cette semaine, c'est la 533e édition, c'est vous dire. Donc,
Oh.
si ça dure,
Ah, il y a des petites interruptions de
ah,
son
vous
là.
nous,
Ouais, il y a des petits problèmes de
ah,
son.
pardon,
Non.
vous m'entendez bien?
Oui, ça va. Alors, on reprend la phrase.
Oui,
Il est bien.
la première chose à laquelle nous avons consacré notre attention et notre cœur aussi, c'était de transmettre du sens. On est dans une époque qui est décomposée au plan du sens. On ne sait plus à quoi s'en tenir. Toutes les valeurs qui ont construit cette société jusque dans notre enfance, dans nos jeunes années, sont mises à mal. Et pourtant, nous devons bien traverser cette vie. Nous devons bien nous appuyer sur quelque chose, sur des certitudes, des valeurs, des croyances qui passent l'épreuve du temps et qui passent l'épreuve de ces provocations et de ces turbulences. Donc pour nous, l'important, c'était de transmettre du sens et de le transmettre, comme vous l'avez dit d'ailleurs, via une expérience humaine. Ce qui garantit traditionnellement la qualité du journalisme, ce n'est pas la qualité des informations.
contrairement à ce que beaucoup de monde, même dans ce qu'on appelle les altermédias, peut penser. La première chose avant les informations, c'est la qualité de celui qui les transmet, qui les étudie et qui les transmet. Donc son intégrité, son absence de compromission, son pouvoir de discernement, son pouvoir d'expression, son ampleur humaine. Vous avez mentionné Kessel, je peux enchaîner là-dessus avec Janckaux, avec Henri Béraud, avec des personnages qui étaient des grands journalistes, sans remonter, n'est-ce pas, encore au XIXe siècle, mais qui étaient des grands journalistes. Pourquoi? Parce que, à travers leur récit, parle leur personnalité entière. La somme des expériences, de tout ce qu'ils ont vécu dans leur vie, est concentrée dans chacun de leurs articles. Et c'est ça qui fait que c'est à la fois plaisant à lire, parce que c'est une condition quand même pour que vous atteigniez les gens, c'est qu'ils aient envie de vous lire. La deuxième chose, c'est que c'est convaincant parce que vous savez que vous êtes en rapport direct avec une âme humaine. C'est évidemment aux antipodes de cet automatisme que vous avez mentionné. Et moi, je vous dirais une chose. Vous avez dit que l'intelligence artificielle a amené un journalisme automatisé. Mais moi, je mets la causalité à l'envers. Une pensée automatisée, généralement, a permis l'émergence de l'intelligence artificielle comme substitut de pensée. Si nous ne nous étions pas automatisés nous-mêmes, nous saurions que ce ne sont que des bouts d'algorithmes et nous les laisserions à leur place. Nous ne leur permettrions pas de nous remplacer. Si nous leur permettons de nous remplacer, c'est que nous ne percevons même plus nous-mêmes la différence entre un mécanisme et une pensée humaine. Vous voyez ? Donc nous, quand on s'est appelé l'antipresse, c'était un petit peu provocateur, mais nous sommes pas là pour dire le contraire de ce que dit la presse, pas du tout. Nous plaçons sur des lignes de pensée qui sont totalement autres, qui sont en face de la presse, comme Anticitaire est en face de Citaire.
Oui, et en face et au-dessus. C'est-à-dire que vous êtes en fait l'antithèse d'une presse qui est elle-même l'antithèse de ce que devrait être la presse.
Non, vous savez, un de nos tout premiers lecteurs, qui est un scientifique français, je ne le citerai pas, je ne sais pas s'il a envie, mais il nous a adressé une fois, à l'époque où nous réfléchissions à ce que nous étions vraiment, une définition parfaite. En ces temps perturbés, disait-il, l'antipresse, c'est la presse. Parce que, justement, ce n'est pas nous qui sommes à rebours, ce sont eux. Donc, nous sommes à rebours, si vous voulez, de la pensée consommable, de l'information instantanée, démagogique. Nous sommes à rebours de cette partialité qui est incorporée au système tout en faisant mine d'être distanciée, objective. En se pourvoyant de cache-sexe, n'est-ce pas ? Nous sommes à rebours de tout ça. Et puis surtout, nous sommes indépendants et libres. Et nous sommes subjectifs. Nous ne prétendons pas vous imposer une vérité qui soit aussi objective que la loi de la gravité. Nous racontons le monde tel que nous le voyons avec la somme de nos expériences et de nos savoirs. Et c'est tout.
Voilà. Mais c'est ce que fait un journaliste.
Ben oui.
On peut très bien lui montrer, ou il peut très bien voir une scène qui a l'air et qui n'est pas ce qu'elle a l'air d'être aussi. Et donc c'est notre expérience qui va induire une réflexion et nous faire remarquer que pour telle ou telle raison, on peut être joué.
Mais oui, ben oui. Ben c'est aussi simple que ça.
C'est le métier, en fait. C'est ça le métier.
C'est le cœur du métier. Faut-il le rappeler ?
Ouais. Alors après, il y a autre chose qui a gangrené déjà, donc... Cet Occident, déjà, la presse devrait appartenir à ceux qui la lisent, c'est-à-dire appartenir dans le sens où on l'achète. Voilà, on l'achète, oui. Donc on la finance. Donc ni à la publicité, ni à des milliardaires. Seulement, aux États-Unis, il y a le même phénomène qu'en France. C'est la même chose avec BlackRock, qui achetait les médias aussi. Oui. Donc, y a-t-il beaucoup de médias libres aux États-Unis ? Je parle de vrais médias, ce que vous appelez les médias de grand chemin. Ça devient compliqué. Donc, on va parler, bien sûr, de cette affaire Epstein. qui n'ont pas Epstein, hein, on ne dit pas on ne dit pas Bernstein, on dit Bernstein, on ne dit pas Einstein mais Einstein. Bon bah là c'est, on est un peu aux antipodes, hein, on dit Frankenstein et pas Frankenstein. Non, là on est plus dans le thème déjà avec Frankenstein. Enfin donc voilà, c'est Epstein, voilà. Donc, Salomon c'est juif, bah c'est un peu ça quoi. C'est je suis désolée, c'est Epstein, voilà. Peu importe. Et ça déjà ça, c'est la presse. Et moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, tiens, ils nous refont la même chose qu'avec la Covid. Voilà, c'est une espèce de manipulation. Donc, en fait, on prend quelque chose par un petit bout de la lorgnette et puis on diffuse, tout devient un petit peu diffus. Voilà, donc Epstein devient Epstein, on essaie de l'éloigner. Bon, et en plus, c'est énorme. Je veux dire, bon, bah, Epstein, il est ce qu'il est et puis c'est tout. Et après, à partir de ce qu'il est, on peut étudier les choses. Mais en fait, vous empirez, en faisant ce genre de choses, vous empirez la situation, si je puis dire. Voilà. Donc, et là, on voit que la presse, d'un seul coup, se donne le mot. Et donc, il y a bien quelqu'un qui leur donne le mot. Hein, parce qu'un journaliste normalement constitué, il ne va pas faire exactement la même chose que tous ses confrères qui sont dans des médias concurrents, parce que vous êtes toujours un peu concurrents. Donc en fait, je ne sais même plus, ils ne sont même pas concurrents, parce que de toute façon, ils sont déjà financés. Donc vous êtes concurrents si vos lecteurs achètent tel journal plutôt que tel autre. Vous voyez, adhère à une chose plutôt qu'à une autre. Voilà. Donc, ça, voilà. Ça m'intéresse aussi d'avoir votre regard là-dessus, sur déjà aussi aux États-Unis la manière dont peut fonctionner la presse. Parce que nous, il y a deux facteurs. Le fait qu'elle appartienne à des milliardaires, le fait qu'il y ait beaucoup de publicité. Bon, ça encore, voilà. La troisième chose, c'est qu'elle est subventionnée.
Absolument.
Et ça, c'est presque le plus grave. Parce que tout le monde n'est pas subventionné, en plus.
Si je peux me permettre une réflexion avant
Ludovic
que Slobodan réponde.
Joubert.
Allez-y.
Oui. La presse prononce Epstein. C'est peut-être de la manipulation consciente, mais c'est aussi simplement. Ça peut être aussi le symptôme d'une institution qui a littéralement perdu la tête et qui ne fait que répéter aveuglément la prononciation américaine, comme elle répète la Covid, ou comme elle répète du jargon absurde, le jargon des urgences, en parlant d'état d'urgence absolu, ou des expressions pédantes, simplement pour se donner de la crédibilité, parce que elle ne sait plus elle-même de quoi elle parle. Donc elle se limite à la surface des mots qu'elle répète.
Moi, je suis d'accord, mais avant la divulgation de ces quelques documents, parce qu'il n'y en a que le tiers, tout le monde prononçait Epstein. Donc, d'un seul coup, on ne sait pas ce qu'il leur.
Le peu de gens qui en parlaient, en tout cas.
Ouais, c'est vrai.
Moi, je pense qu'il y a aussi un effet tout simplement de snobisme. À New York, ces noms de famille juifs sont prononcés avec in. À New York, ils vont dire Bernstein assez facilement. Donc tout le monde fait new-yorkais, n'est-ce pas ? Ça fait chicos.
Peut-être.
Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette scène. Vous savez, il y a cette scène dans le Manhattan de Woody Allen. Woody Allen, tiens. Un des personnages reproche à l'autre de dire Van Gogh alors qu'il faut dire Van Gogh. Chez nous, dans les milieux, dans les milieux initiés, on dit Van Gogh. Et la même chose. Donc, si vous prononcez Epstein, c'est que vous êtes dans le coup. Si vous ne prononcez pas comme ça, c'est que vous n'y êtes pas. C'est simplement ça. Enfin, c'est à mon avis. Il y a aussi cette composante, disons, sociale, snob.
Alors moi, sauf que nous, on s'adresse au public francophone.
Bah, bien sûr.
Et puis même allemand, quoi. C'est Epstein, Fraulein, et Nein. Et donc c'est comme ça. Et en fait, si à ce public-là Vous ne prononcez pas de la bonne manière, pour moi, c'est une manière de vouloir noyer le poisson qui est très, très louche, quoi. Donc déjà vous paraissez louche, donc vous allez d'autant plus intéresser, quoi. Voilà. Pas très malin. Bon, et alors sur la presse aux États-Unis, en fait, est-ce qu'on a le même modèle, donc c'est-à-dire que l'argent, les milieux d'argent, les milieux d'affaires mettent le grappin sur la presse, et que c'est comme ça que ça commence aussi, pour fabriquer des crétins.
Alors oui, on a des usines, des fabriques du crétin un peu partout, qui commencent d'ailleurs avec le système scolaire. Hein. La presse n'est que la cerise sur le gâteau, excusez-moi.
Mais c'est vrai, démis.
Mais disons, puisqu'on parle des États-Unis, je dirais que la situation est moins grave que dans le reste du monde. En tout cas, dans le reste du monde occidental. Pourquoi? Parce que vous avez effectivement des médias, des legacy media, donc des médias de grand chemin, comme je les appelle, qui sont subventionnés ou qui sont la propriété de milliardaires, qui donc font la musique que leur maître veut entendre. Mais vous avez aussi eu ces dernières années, et à la faveur du développement de l'Internet, une migration de certains grands noms du journalisme vers des formats de publication et d'expression qui sont indépendants. En particulier, vous avez des gens qui avaient une certaine audience, comme Glenn Greenwald ou comme Seymour Hersh, qui est quand même le journaliste d'enquête le plus célèbre aux États-Unis, qui a 90 ans. Eh bien, Hersh, à 80 ans passés, a bifurqué de la presse, où il avait encore ses entrées, vers Substack. Il s'est mis sur une plateforme et il s'est mis à faire payer ses articles à ses lecteurs. Et évidemment, ces gens qui sont des grosses pointures ont été suivis par toutes sortes d'autres gens que je ne vais pas citer, que moi je lis beaucoup de gens sur ces plateformes-là. Et vous pouvez constater que ces gens ont gagné plus d'audience en étant complètement indépendants, bon, moyennant le support technique sur lequel ils se trouvent, évidemment, mais en étant complètement indépendants qu'en étant noyés dans une rédaction qui leur dit ce dont il faut parler et ne pas parler. Ou bien vous avez le cas le plus spectaculaire, qui est un exemple, c'est le cas de Tucker Carlson, qui à un moment donné a été viré de Fox News, qui a créé son propre canal, donc tuckercarlson.com, et qui maintenant fait des interviews et des entretiens, des émissions qui dépassent en audience les chiffres cumulés des 5 ou 6 premiers médias de grand chemin américains. Là, ils sont très mal. En Europe, j'observe, en tout cas dans le domaine francophone, ces phénomènes-là sont très marginaux. C'est-à-dire que, d'abord, on a peu de gens dans la profession qui aient cette colossale réputation. Il y en a. Ensuite, on a moins ce besoin d'expression et d'indépendance. Je veux dire, quand même, aux États-Unis, on ne plaisante pas avec la liberté d'expression. Quand quelqu'un se sent brimé dans son contexte professionnel, il claque la porte. En Europe, très souvent, on préfère se taire ou mettre de l'eau dans son vin. Caractériellement, les Américains sont beaucoup plus fermes que les Européens. Il y a aussi ça.
Donc, ils ont plus de caractère, ce que vous êtes en train de nous dire.
Oh, sans aucun doute.
Et ben
Vous
déjà, pour aller
savez,
vers
aux
ces
États-Unis,
plateformes, déjà, il faut en avoir.
non mais aux États-Unis, lorsque vous avez un problème de, vous avez, lorsque vous avez, lorsque vous avez un intrus dans votre maison, vous avez le droit de l'abattre. Je peux vous assurer que ce détail anthropologique, enfin juridique, mais anthropologique, crée des caractères qui sont très différents de ceux qui, lorsqu'un assassin entre dans leur maison, essayent d'appeler la police.
Oui, mais ça, vous savez que moi, mes dadas, c'est l'autonomisme. J'en ai fait un livre
Oui.
et que j'explique que tout est déjà dans la tête, dans l'éducation, mais
Ben
aussi
oui.
dans la tête, en fait.
Ben oui.
Et que si vous attendez, en fait, c'est si vous arrive des choses un peu difficiles, jeunes, vous allez comprendre très vite que personne ne viendra jamais,
Ben
d'accord,
oui.
vous aider. C'est comme ça, c'est le principe. Et donc, il va falloir trouver vous-même les solutions et qu'il va falloir vous-même assurer ou votre protection, votre défense, etc. Et donc, effectivement, si plus les forces sont inégales et plus vous allez devoir réfléchir. Et c'est une bonne école de la vie, croyez-moi.
Voilà.
Et ça ne veut pas dire que parce que vous êtes entre guillemets le plus faible, c'est pas vous qui allez avoir le dessus. Et en fait, à partir du moment où vous dites, bah, en fait, c'est l'Ouest américain. Quand on a fait la conquête de l'Ouest, on avait des bandits dans tous les sens. Vous étiez au fin fond de votre ranch ou votre petite maison dans la prairie. Et vous aviez des gars à cheval, des voyous qui arrivaient, etc. Ben, on vous appelait pas la police, hein. n'y a pas de téléphone pour appeler la police, le shérif et tout ça. Donc, le shérif souvent était bien seul, donc il faisait ce qu'il pouvait en plus. Donc, ça a forgé aussi des caractères. Et ça a appris que pour les choses les plus graves ou pour la défense immédiate, faut apprendre à se débrouiller tout seul. Et c'est vrai qu'en France, tous les jours, on nous dit comme un mantra que c'est l'État qui a la violence légale, qu'il ne faut pas faire justice soi-même. Or, on nous affaiblit en permanence en mélangeant, et c'est toujours le discours, vous savez, qui est... C'est Ludovic hein, qui l'étudie particulièrement bien. On phagocyte les mots et puis on leur donne exactement l'inverse de ce qu'ils sont. Et puis finalement, la légitime défense devient de la violence, devient etc. Et en fait, on nous interdit même la légitime défense en fait. La légitime défense devient quasiment de la violence gratuite de là. Bon. Donc, il y a aussi toute une idéologie derrière qui désarme les gens physiquement, certes, mais surtout mentalement.
Oui.
En étendant le concept de légitime défense jusqu'au fait, comme c'est arrivé il n'y a pas très longtemps pendant des émeutes à Paris, de poursuivre pour un tenancier de café ou de restaurant, de poursuivre un pickpocket à l'extérieur de son ou de le chasser simplement de son établissement, il s'est fait réprimander par la police. Ou simplement, parce que quand on parle de légitime défense, on imagine une répartie physique violente, alors que non, simplement le fait d'enfermer un cambrioleur qu'on aurait surpris chez soi est déjà réprimandé par les autorités.
Ah ben là, on a eu un pompier qui a eu trois personnes qui sont venues voler sa voiture, dont un qui avait un couteau. Il a simplement donné un coup de bâton et c'est lui qui a des ennuis. Donc, on marche complètement sur la tête. Ouais.
Ben oui.
Alors, on peut faire Slobodan, je laisse, si vous voulez rebondir là-dessus, mais on peut faire tout de suite un lien avec l'affaire Epstein. C'est-à-dire qu'on est dans une telle inversion des valeurs, alors ça, on va voir pourquoi. C'est-à-dire que depuis quelque temps, il y a eu l'affaire MeToo. Et moi, je voudrais commencer là, en fait. À partir de l'affaire MeToo, on s'est aperçu qu'on avait beaucoup d'individus qui se comportaient très très mal envers les femmes et puis ensuite envers les enfants et qui avaient un problème et un rapport à la sexualité tout à fait déplacé. Bon. Et la parole s'est libérée, parce qu'en vérité, ça existait depuis longtemps, ça a peut-être toujours existé. Mais en tout cas, en France, c'était particulièrement généralisé, en fait. Et petit à petit, on s'est aperçu que des individus s'attaquaient vraiment, c'est la limite absolue, c'est de s'attaquer aux enfants. Enfin, je veux dire, on peut tout faire, des manipulations, tout ce que vous voulez, mais s'attaquer aux enfants, c'est le stade ultime, je dirais, dans le mal. Donc, et ça, on s'aperçoit donc que ça se, pas généralise, mais enfin, en tout cas, que ça devient extrêmement récurrent. Et puis, que découvre-t-on? C'est qu'il y a des gens qui veulent protéger les enfants, notamment des mamans, contre les beaux-pères, contre les pères, contre etc. Des personnages peu recommandables. Et que ce sont elles qui vont très vite être criminalisées pour avoir voulu protéger, en fait. Et donc, il y a pas mal de procès en ce moment. La parole se libère, mais le pouvoir... la légalité, en fait, continue encore sur les toutes dernières affaires sur lesquelles on se penche, à inverser les choses, c'est-à-dire que la personne protectrice devient celle qui est violente en voulant simplement protéger celui qu'il faut protéger par excellence, c'est-à-dire l'enfant qui ne peut pas se protéger lui-même. Donc vous avez cette quand même inversion des valeurs qui est quand même intéressante et qui pour moi déjà préside déjà à donner un avant-goût de ce que pouvait être cette affaire Epstein qui nous gangrène. Et c'était une manière de dire que, mais voyez, dans l'ultime, on vous dit, non, tu ne peux pas te protéger et tu ne dois pas protéger. Donc là, vous désarmez les gens, mais complètement, quoi.
Oui. Alors, tout cela est le symptôme, que ce soit dans ce domaine-là, ou dans le domaine de la légitime défense, de la protection de sa sphère privée, etc., ce à quoi l'on assiste en Europe, c'est à une véritable fatigue de civilisation, qui se traduit dans les phases, disons, de régression totalitaire par une emprise croissante de la bureaucratie, c'est-à-dire du système sur l'individu, puisque maintenant, pratiquement toutes vos actions, tous vos actes garantis théoriquement par la loi, enfin, dans le cadre de vos libertés civiques, tous vos actes doivent être en quelque sorte avalisés ou filtrés par le système. Vous ne pouvez pas défendre vos enfants tout seul, vous pouvez même pas les éduquer tout seul. C'est quand même quelque chose qui est extrêmement, extrêmement grave, puisque les enfants appartiennent maintenant, c'est bien clair, davantage à l'État qu'à leurs parents. L'État ayant le droit de les retirer, par exemple, lorsque dans le pays où je vis, dans le pays où je vis, la Suisse, l'État peut retirer, je ne sais pas quelle est exactement la situation en France, mais ici, l'État peut retirer la garde des enfants à des parents qui s'opposent, par exemple, à leur transition de genre. Alors que les parents ont quand même le droit de s'opposer à leur consommation d'alcool avant la majorité, non? Donc, il y a quelque chose qui est complètement, effectivement, mis cul par-dessus tête, et qui est le symptôme d'une dérive totalitaire, d'une fatigue de civilisation. Et puis, ce que vous avez cité comme phénomène, qui était le réveil face à cette violence dans les familles, dans les institutions, dans les rapports professionnels, en particulier, par exemple, dans le cinéma. Alors, évidemment, il y en a un qui a pris pour, je ne sais pas combien, 20 ans, le producteur, comment il s'appelle déjà, américain.
Einstein.
Oui, à 20 ans.
Einstein.
Il a pris pour 20 ans dans des circonstances. J'allais dire, c'est presque une diversion, parce que lui a servi de bouc émissaire ou d'exemple pour toute une palette de cas qui pourraient être plus graves que le sien, parce que les rapports entre un producteur et une starlette sont très très difficiles à démêler après coup. Je n'en dis pas plus. Je dis juste que c'est très difficile à démêler après coup. Viens petite dans ma chambre d'hôtel, je vais te lire le scénario. Si elle est totalement au clair avec elle-même, elle dit tu peux me lire le scénario ici dans le lobby. Hein? Donc, je dis juste ça. Mais, de fait, il y a eu ce déplacement de l'attention, ou cet éveil de l'attention à des phénomènes qui, effectivement, à mon avis, existent de longue date. Mais, comme toute bonne initiative, comme toute vertu, ça a été instrumentalisé afin de donner encore plus d'emprise au système et à l'État. Et c'est ce que vous observez partout. Dans les années 70, 80, 60, des gens qui étaient sincèrement préoccupés de la destruction de l'environnement par l'industrialisation, puis tout d'un coup, le système a repris lui-même cette préoccupation pour introduire un contrôle totalitaire des comportements, des déplacements, de l'énergie, et évidemment imposer de nouvelles taxes, en vidant de tout son sens l'idée primordiale elle-même. Et tout se passe comme ça, quel que soit le domaine, si vous observez bien.
Alors, peut-être que pour comprendre cet arbitraire, ces inversions, c'est tout ça, il faudrait parler du système pour comprendre, parce qu'on est en train de parler de l'effondrement finalement de l'Occident et de tous les finalement la pourriture qui remonte comme ça, hein, parce que vous savez quand c'est les égouts qui débordent. C'est pour ça que je trouvais que au moment de l'affaire Epstein, c'était le moment d'en parler. Ce sont des égouts qui débordent. Mais pourquoi, la question, on le sait depuis un moment. Alors, on a eu Wikileaks, on a eu toutes les affaires MeToo, maintenant on a Epstein. Mais tout ça, en fait, on le sait. Alors, la question, c'est de savoir, là, il y a les égouts qui sont profonds, mais d'où viennent ces remontées d'égouts? Qui est-ce qui recrache toute cette pourriture et pourquoi, en fait. Donc, on va écouter un extrait d'un personnage très français, qui parle toujours de ma chapelle, mais enfin, disons que cette vieille garde, cette ancienne génération est quelque chose de sympathique et d'héroïque de par leur parcours, pour montrer quelque chose qui a trait déjà et qui était dénoncé, qui a trait à cette affaire Epstein, parce que nous avions nos affaires Epstein sans arrêt en France, et ça ne s'est pas arrêté. Encore récemment. Donc, on va écouter et je me dis, qui sommes-nous ? Qui sommes-nous pour ne pas entendre et pour ne pas réagir cet extrait qui a maintenant plusieurs décennies ?
Parce qu'il y a encore 10 ans, hein, il existait une morale. Personne n'exigeait que personne ne respecte exactement cette morale. Mais la morale existant, le tordu ou le pourri qui sortait vraiment de cette morale savait qu'il faisait quelque chose qui n'était pas très droit et qui n'était pas très juste. Comme tout est parti à volo, on en arrive aujourd'hui à ce qu'on prostitue des gamines de 3, 4, 5, 6 ans. Une gamine est morte d'overdose dans un bar en Belgique. C'était la fille d'une prostituée qui l'avait confiée au patron du bar et le patron du bar la faisait monter. Elle montait avec des clients, et comme la gamine hurlait trop, eh bien, il la bourrait de drogue. Eh bien, si nous, nous étions au pouvoir, je peux vous dire que le soir même, on descendrait dans ce bistrot, et que les patrons et les clients seraient pendus devant la porte, parce que c'est comme ça qu'il faudra que les choses se passent, si on veut que notre patrie et le monde occidental survivent à la vague de merde qui est en train de se déclencher.
Voilà. La vague de merde. Eh ben, la vague de merde, on est en plein dedans et on surfe là sur la vague de merde depuis un bon moment maintenant.
Et ça aussi, il faudra bien l'arrêter. Et ne croyez pas que je sois axé oui. principalement là-dessus, mais je trouve que c'est une des choses les plus dégueulasses. Monsieur Jack Lang, qui prétendait être candidat à la présidence de la République, que l'on m'arrête à la sortie, si ce que je dis n'est pas vrai, a été compromis dans l'affaire des lieux de vie est dans un lieu de vie tenu par des socialistes qui s'appelait le Corral. Et là, des gamins étaient prostitués à des gens comme Jack Lang. Et un gosse a été trouvé mort, sodomisé, la tête dans un seau de merde, que l'on m'arrête à la sortie si ça n'est pas vrai. Alors je veux bien que demain, on se batte dans une armée pour défendre l'Europe. Je veux bien demain tout ce qu'on veut. Je veux bien, même devant vous, à 70 berges, être devant, donner l'exemple et tomber. Mais l'Europe, je m'en tape tant que mon pays est pourri. Et ce que je veux sauver dans un premier lieu, c'est mon pays, c'est ma patrie. Et je veux que tous les Jack Lang de France et d'ailleurs soient pendus haut et court et aient des comptes à rendre. Et c'est uniquement par notre tenue, par notre allant, par notre morale, par notre certitude dans la victoire que nous exigerons que ces gens-là payent parce qu'ils doivent payer. Voilà le message que je voulais vous passer.
Voilà. Bon, Roger Hollande, 1998, militaire, hein, il était militaire, il était journaliste, et puis il a été homme politique, il a été député à l'Assemblée nationale. Et voilà son discours anti-pédocriminalité, et évidemment, personne n'est venu à la sortie le chercher, parce que bien sûr...
Le mot, voilà. Pardon, le mot essentiel qu'il a dit, oui, qui est le concept de morale... Alors, moi, j'ai fait ma scolarité à l'école républicaine et laïque, et c'est précisément un concept essentiel dont on nous fait croire que c'est ce qu'on appelle aujourd'hui une construction sociale. Cette inversion des valeurs que nous subissons n'est possible que parce que justement on a dévalorisé les valeurs et qu'on nous fait croire que le bien et le mal sont des notions relatives, ça s'appelle le relativisme, donc elles n'existent pas en fait. Alors qu'en fait, il est bien possible que ce soit au contraire des notions naturelles et que les mots soient des réflexions d'une réalité naturelle, à savoir que le bien, par exemple, serait ce qui protège la vie. Et aujourd'hui, on est dans un monde qui protège la mort et la morbidité et tout ce qui est tout ce qui porte atteinte à la vie en fait. Oui. Donc,
mais personne ne met des mots sur les choses, hein, parce que ce n'est même pas une question d'inversion des valeurs, de dire que peut-être il y a des gens qui se trompent parce qu'ils n'ont pas les bonnes valeurs, qu'ils ont été, entre guillemets, intellectuellement abusés, donc ils ne sauraient pas qu'on ne s'attaque pas à un enfant. Mais il y a un député socialiste en France qui très récemment l'a dit, en pleurant au micro, et il y a une autre députée de gauche qui l'a dit, ce sont des actes de torture. Est-ce que ces gens-là auraient envie d'avoir mal comme ça? Est-ce qu'ils auraient envie d'être traumatisés comme ça? Il n'y a pas d'autre, il n'y a rien d'autre à dire, en fait. On ne peut pas se tromper sur ce sujet-là. Voilà. C'est pas compliqué. Et puis en plus, après, vous entrez dans la psychologie, dans tout ça, voilà. Le corps n'est pas prêt, la psychologie n'est pas prête, un enfant n'est pas sexué, etc. Voilà. Et tout ça, on le sait. Voilà. Donc, voilà ce que disait Olympe, mais 1998. Depuis 1998, on sait, d'accord? Donc, est-ce qu'on n'est pas tous en train de surfer sur la, comme je cite à nouveau la vague de merde, puisqu'il ne s'est rien passé depuis 1998, d'accord?
Bah, si, il s'est passé quelque chose en 2005. En 2005, Jean-Pierre Mocky a tourné les balais écarlates.
Les balais roses.
Non, écarlate.
Ah bon?
Ce sont...
Il me semblait que ça s'appelait les balais roses.
C'est le titre du film. Oui, les balais roses, c'est l'expression, c'est l'expression visuelle. Mais lui a justement changé le...
À l'époque de Gaulle.
Le qualificatif, voilà. Les balais écarlates, c'est littéralement des... Ben, ça porte sur les viols littéralement d'enfants. Je veux dire, c'est... Le problème que pose ce film, même si c'est un film de fiction, est un problème... Qui mutatis mutandis est le même qu'a posé Kubrick avec Eyes Wide Shut et qui aurait dû donner lieu, enfin qui aurait dû être une alarme, qui aurait dû donner lieu à quand même un débat social. Vous savez, au 19e siècle, sans la case de l'oncle Tom, il n'y aurait probablement pas eu de guerre de sécession.
Ouais.
La case de l'oncle Tom, ce n'était qu'un roman. Pourquoi? Parce qu'on a thématisé. On a thématisé une prodigieuse injustice sociale, un crime social, un crime sur lequel tout le monde s'entendait.
Pardon, je peux juste une toute petite interruption, excusez-moi. C'est le premier, dans l'histoire du cinéma, c'est le premier film qui est interdit dans les salles, qui ne passera pas dans les salles, les balais écarlates, voilà.
Ah bah tenez, je ne savais même pas, voyez-vous. Alors, donc, alors encore mieux, je veux dire... c'est un indice qui est encore plus parlant. Alors voyez, là j'entendais cette diatribe vraiment militaire mentionnant l'ancien ministre de la Culture français, qui maintenant est déchu à cause des révélations qu'on a sorties. Puis tout d'un coup, vous avez même la presse de grand chemin qui commence à dire ah oui, mais en fait, qui le peint comme un parasite social.
Tout en quelques jours, hein, ils ont mais tourné Kazakh en même quelques heures.
tout en appliquant, en fait, c'est un procédé, à mon avis, de gestion de crise, parce que si vous l'enfoncez bien comme parasite social, vous n'avez pas besoin d'aller plus loin. Parasite social, c'est pas si grave. Des pique-assiettes, il y en a partout. Mais ce qui est intéressant, ce que révèle cette volte-face très rapide de la presse, c'est que tout le monde savait tout. Je veux dire, ces articles, pour ainsi dire, étaient déjà écrits, parce que dans un système qui se tient par ses allégeances et ses loyautés occultes, au sens où elles ne sont pas publiques, au sens où elles sont tacites, dans un système comme ça, vous avez toujours des articles de dénigrement ou de dénonciation qui sont écrits à l'avance sur n'importe lequel des membres du système pour qu'ils sachent qu'ils doivent bien se tenir. Donc là, tout d'un coup, il n'est plus rien. Mais pourquoi personne ne l'a dit avant? C'est ça qui est intéressant.
Oui.
Pourquoi personne ne l'a dit avant? Si on le savait, si on savait qu'il ne payait jamais ses factures, si on savait qu'il faisait du trafic d'influence, si on savait qu'il harcelait les gens, pourquoi on ne l'a pas dit avant? Mystère.
Mais les gens parlaient, mais ça n'était pas relayé. Ça n'était pas permis de le relayer.
Ben voilà.
Moi, j'avais un restaurateur qui me l'avait confié. Il venait avec... mais Mitterrand faisait la même chose. Hein. Il venait... Il était dans le quartier du monde arabe, d'ailleurs, de l'Institut du monde arabe. Il venait avec une tablée Et puis après, quand le restaurateur venait avec la facture, il disait qu'il ne paierait pas. Alors on dit, ben, monsieur Lang, bien sûr, on vous invite, quoi, ou monsieur Mitterrand, ou n'importe, on vous invite. Ah ben non, il faut inviter tout le monde, quoi. Ah ben oui, t'as 25 personnes à table, t'as un petit restaurateur, bien sûr. Et le restaurateur, il m'avait dit, ben moi j'ai dit non, il a eu un contrôle fiscal, voilà. Dans la foulée. Donc ce système, et moi je peux vous donner un autre, parce que moi je ne dis que des choses que j'ai vérifiées ou vraiment les témoignages que j'ai cherchés ou qui m'ont été souvent, qui sont venus vers moi. Ça c'était pour une association merveilleuse, une vente de produits de luxe et une femme d'un président socialiste. De la République socialiste vient et prend beaucoup d'articles en disant non, non, mais elle retourne à l'Élysée. Elle dit non, non, mais je vais, on vous enverra l'argent. Elle a pris tous les articles qui lui intéressaient et ils n'ont jamais vu l'argent. Donc, c'est descendre aussi bas, c'était une association, voilà, en plus, c'était autour de l'enfance et tout. Enfin, ça va très loin quand même. Ces gens n'ont honte de rien. Et ça, on le sait depuis mais longtemps, longtemps. Moi, je sais qu'à cette radio, alors que je n'avais que 16 ans quand je suis arrivée, j'avais rencontré, qui venait régulièrement lorsque j'assistais, le directeur, le président, le fondateur de cette radio, l'homme qui s'appelait Jean Montaldo. Et moi, c'est comme ça que j'ai découvert, toute jeune, entre 16, 18 ans, 20 ans. Il avait Mitterrand et les 40 voleurs, déjà. Donc là, partant de là, tout le système s'est construit comme ça.
Bah oui.
Alors, maintenant, ce que j'aimerais qu'on évoque, c'est notre régime, parce que, soi-disant, nous sommes vertueux. Donc ça déjà, ça prenait l'eau de toutes parts auprès des Chinois, auprès des Russes, auprès de tous ceux qui font leurs affaires sans nous maintenant. Voilà, donc maintenant, ça prend l'eau, certes, mais nous sommes les grands démocrates, voilà. Donc, ce qu'il faut peut-être... étudier, cette forme de néocolonialisme orgueilleux qui veut imposer à la planète entière son propre système et que Zinoviev appelle l'occidentisme. Et ça, il faudrait que parce que c'est ça, le mal profond de l'Occident, il faut l'expliquer parce qu'il trouve être sa plus belle vitrine. À savoir la démocratie et puis bien sûr le capitalisme. Mais voilà, donc il faut nous parler de cette vaste blague, fumisterie.
Oui. Alors, vous savez, sur les traces de Zinoviev, qui malheureusement est mort trop tôt, il nous serait bien précieux aujourd'hui, il est mort en 2002. Sur les traces de Zinoviev, j'étudie depuis 10 ans maintenant dans l'Antipresse très régulièrement les symptômes et les signes de cet évidement, de cette perte de tout contenu dans l'idéologie que nous offrons à la face du monde en Occident. Et dans un article de 2017, ça nous ramène à il y a 8 ans ou 9 ans, j'ai repéré un film qui était produit par la BBC, donc tout à fait officiel, d'un très bon cinéaste documentaire qui s'intitulait L'hypernormalisation. L'hypernormalisation, c'était la construction d'un monde parallèle, d'un monde purement narratif, virtuel, comme on dirait aujourd'hui, à côté de celui dans lequel nous vivons, parce que celui dans lequel nous vivons, les maîtres qui le dirigent, ceux qui en ont la charge, ont compris qu'il n'était pas viable et qu'ils allaient avoir beaucoup de difficultés s'ils l'admettaient. Peu comme l'Union soviétique à la fin de son parcours, on est dans un monde qui parle de choses qui n'ont aucune consistance, qui n'ont pas de sens littéralement, qui sont du bruit. Ça, c'était quelque chose que Zinoviev, lorsqu'il a été expulsé du RSS à cause de ses idées, et qu'il est arrivé en Occident, en Allemagne, a immédiatement repéré. Il s'est dit, mais ça fonctionne comme chez nous, ça a juste du retard. Et d'où ses études ensuite sur l'idéologie occidentale. Maintenant, vous me parlez de démocratie. Évidemment, démocratie, c'est le mot qui revient le plus souvent, C'est la dernière paille à laquelle on se raccroche pour se donner une légitimité face à l'humanité, au reste de l'humanité. Comme si la démocratie, au sens formel, n'était pas aussi développée ou sous-développée dans les autres pays. Chez les Américains, vous avez cette expression qu'utilisent les Trumpistes pour les républicains qui ne sont républicains que de nom, ils les appellent Republicans in name only, RINO en abrégé. Ouais. C'est-à-dire que c'est des gens qui portent une étiquette mais qui pensent comme le parti d'en face.
C'est ça, ils n'en ont que le nom, voilà. C'est ça.
Eh bien, nous vivons, nous, ici, en Europe, dans un régime que j'appellerais, moi, le DINO, c'est-à-dire Democracy in Name Only. Cette démocratie n'existe que verbalement. Ce qu'elle suppose pour être réelle, nous avons publié récemment, d'ailleurs, dans l'Antipresse, un article de notre chroniqueur judiciaire, Diego Bischoff, qui a étudié ce qu'était la démocratie athénienne telle qu'elle se pratiquait, concrète. Mais la démocratie athénienne, qui d'abord ne concernait, comme tout le monde le sait, qu'une petite partie des habitants d'Athènes, tout le monde n'était pas investi des droits démocratiques.
Non.
Et ensuite, elle imposait à ceux qui en étaient investis de ces droits un travail pour la chose commune qui était sans aucune commune mesure avec ce que nous faisons. C'est-à-dire que vous deviez consacrer une grande partie de votre temps bénévolement à étudier les questions de la chose publique avant de les voter, à faire du service commun. Qu'est-ce que la démocratie dans laquelle nous faisons mine de vivre? C'est un système, comme disait Zinoviev, où on appelle les gens à voter de temps à autre pour élire des représentants qui, de toute façon, vont les trahir sitôt qu'ils seront au Parlement. C'est même ici en Suisse, nous sommes dans le seul pays de démocratie directe au monde, paraît-il. Mais nous savons ce que ça vaut. Est-ce que j'entends beaucoup de Français idéalistes qui disent, mais nous, ce qu'il nous faut maintenant, c'est un droit de référendum comme chez les Suisses. Bon, mais ils n'ont pas vraiment étudié comment ça se passe. En Suisse, on a voté, je crois que c'était en 2009. Évidemment, si on vote sur des sujets qui sont inoffensifs, tout va bien. Mais quand on a voté en Suisse sur le contrôle du flux des étrangers et que ça a été adopté par la nation en référendum direct, tout simplement, le gouvernement ne l'a pas appliqué parce que ce n'était pas compatible avec les lois européennes. Puis après, on a refait un référendum pour obliger la Confédération à appliquer sa propre loi votée par le peuple. Elle ne l'a pas été. Alors, on n'arrive plus à faire voter, à faire appliquer les lois qui sont votées directement.
Ça nous rappelle quelque chose, nous.
Votre référendum.
Et Monsieur Sarkozy, quoi, voilà.
Mais en fait, vous êtes dans un théâtre d'ombre, un spectacle hyper normalisé, où les dirigeants font semblant de vous donner la voix et où vous faites semblant de la prendre. C'est tout.
Ouais. C'est-à-dire que les dirigeants, c'est ceux qui se présentent, alors qu'on devrait pouvoir aller chercher, on devrait en vérité aller chercher des hommes qui ont fait leurs preuves et qui ne sont pas forcément des politiques. Ce que disait Volkov, le type d'homme à souhaiter être élu n'est pas nécessairement celui qui mérite le plus la confiance de ses électeurs.
Pour avoir fait un bref passage en politique, non pas comme élu, mais comme conseiller. Je peux vous dire que c'est ce qu'a dit Volkov, c'est on pourrait en faire une loi sociale. C'est-à-dire que de mon vivant, ce que j'ai vu, c'est que ceux qui étaient vraiment empressés à assumer des fonctions politiques et les honneurs qui y correspondent, c'était les gens qui auraient le moins dû s'y trouver.
Ouais, c'est ça. On passe, on appelle. Oui, Ludovic, et après on passe un Bobino.
On appelle. Oui, pardon.
Vas-y, et après on passe un Bobino. Allez-y.
Oui, non, on s'accroche au mot de représentant. Il ne peut être pas mensonger. On nous fait croire que les représentants représentent ceux qui sont en bas, entre guillemets, alors qu'en fait, ils sont peut-être véritablement des représentants, mais des représentants de ce qu'il y a au-dessus d'eux et qui est caché.
On va passer ce qu'on appelle ici un Bobino. J'aime bien ces petits mots surannés. Et puis, on va ensuite parler de ce que la plupart considèrent comme un oxymore et qui pourtant n'est pas du tout un oxymore, c'est-à-dire le totalitarisme démocratique.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Toujours dans le libre journal de Salza Bertin avec Slobodan Despot, directeur de l'Antipresse, journaliste, éditeur, romancier, mon chroniqueur Ludovic Joubert. Alors on parlait justement de l'arnaque, si je puis dire, de la démocratie. C'est de la démocratie absolue qu'on vit, si je puis dire. Où finalement, et on l'a vu avec notre crise agricole encore, voilà, parce qu'il faut prendre de bons exemples, parfois un bon exemple vaut mieux qu'un long discours, où on a une crise agricole avec les meilleurs d'entre nous, qui nourrissent et qui nourrissent de manière extrêmement vertueuse, parmi ceux qui nourrissent et qui font le plus vertueusement de toute la planète, et bien qui ont été réprimés, absolument sauvagement, par la police, les préfets, les gendarmes, tout ce que vous voulez. Et alors, encore récemment, sans explication et sans raison apparente, 5 agriculteurs ont vu les gendarmes débarquer chez eux, défoncer la porte, faire des perquisitions, les menotter devant leurs enfants, alors que la révolte paysanne, c'est qu'il n'y a pas eu de manifestation récente, ni quoi que ce soit. Bon, et que ce sont vraiment des braves gens qui travaillent. C'est absolument fou. Donc, dans une démocratie, on est capable aussi d'aller perquisitionner et d'arrêter des gens parce qu'ils ont retweeté un tweet qui n'est même pas illégal, une pensée qui n'est pas illégale, mais qui déplaît. Donc, on ne peut pas penser autrement que ce que pense l'autorité. Et il y a une notion d'obéissance et de désobéissance qui est complètement dépassée. Et voilà, donc voilà aussi le mal qui nous gangrène. Slobodan Despot, qu'en pensez-vous ?
Oh ben d'abord que l'expression de démocratie totalitaire que vous avez utilisée, à mon sens, n'est pas du tout un oxymore. C'est un pléonasme. si j'ose me permettre des discussions sur des figures de style, n'est-ce pas ? C'est un pléonasme, pourquoi ? Parce que un système qui ne repose pas sur l'illusion d'une volonté collective, n'est pas un système totalitaire, c'est un système autoritaire. Un système autoritaire et un système totalitaire sont deux choses complètement différentes. La France de Louis XIV était un système autoritaire, mais pas totalitaire.
Oui.
Donc, la démocratie, enfin, un système totalitaire, si vous l'observez dans tous les cas où il a été incarné quelque part, c'est revendiqué de la volonté populaire. Et les porte-voix de ces systèmes totalitaires, jusqu'à la fin, ont tout de même été soutenus par une majorité de la population. C'est aussi une chose qu'il ne faut pas... Il ne faut pas se fermer les yeux là-dessus.
Oui.
Le totalitarisme, quel qu'il soit, dans quelques conditions que ce soit, repose sur l'assentiment de la majorité.
C'est fou, hein. Il y a un l'asservissement volontaire dont on parle, parce que c'est très étonnant. Oui. Récemment, je me suis retrouvée avec un militant LFI. On essayait tous les deux de convaincre un potentiel électeur issu de la diversité de voter autrement que pour le marasme du milieu, en fait, qui est quand même responsable de là où on est quand même tout de même. Bon. Et cet homme disait, ah non, moi jamais je voterai pour des extrêmes, je vote que pour les gens du milieu qui ont le pouvoir, parce que ça le rassurait. Voilà, donc effectivement, ça corrobore ce que vous dites.
Oui.
Donc il y a une tyrannie de la majorité, ou de la courte majorité.
Vous savez, il y a une tyrannie de la majorité, et derrière la tyrannie de la majorité, il y a la volonté des ventriloques. C'est-à-dire des gens qui encadrent idéologiquement, qui encadrent culturellement cette majorité pour qu'elle parle, pense ou dise ce dont eux ont besoin. Le XXe siècle, c'est le siècle de la psychologie des masses. C'est le siècle d'Edward Bernays. C'est le siècle de la manipulation, de la propagande. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai des réticences à expliquer ce qui nous arrive par des considérations, disons, de politique. D'abord, je n'ai jamais de considérations politiques, je ne commente pas les programmes d'un parti ou de l'autre. Je pense que que le monde politique est totalement dépassé, quel qu'il soit.
Ah oui, non, mais c'est pour ça qu'on les voit un peu les mêmes.
Voilà. Et pour moi, les explications de ce monde sont des explications spirituelles,
Oui.
culturelles et littéraires. Pour moi, les écrivains ont toujours été les sismographes, non seulement de leur époque, mais les grands écrivains ont la faculté de sentir les tremblements de terre à venir. Qu'est-ce que je veux dire par là?
Ah oui.
Lorsque Dostoïevski écrit les démons ou les possédés, qui illustrent les péripéties d'une bande d'illuminés, de révolutionnaires illuminés dans une ville de province en Russie, il donne les profils exacts de ce que seront les bolcheviks 50 ans plus tard. Et comment ils pensent et comment ils agissent? Aucun historien, aucun politologue de son temps, ni après, n'a donné un portrait aussi exact des bolcheviks. C'était 50 ans d'avance. Lorsque Baudelaire lance des aphorismes sur la modernité en train de se construire, ces aphorismes ne sont compréhensibles qu'un siècle plus tard, ou même davantage. Vous aviez alors pour revenir au sujet, vous aviez au 19e siècle un penseur russe qui s'appelait Léontiev. Léontiev a écrit un petit livre que nous avions publié à l'âge d'homme qui s'intitulait L'Européen moyen, idéal et outil de la destruction universelle. Petit livre, 1870 environ. Ce qu'il explique là-dedans, c'est qu'en lisant les auteurs qui déterminent la pensée sociale et politique européenne du 19e siècle, c'est-à-dire les John Stuart Mill, les Proudhon, les Cabet, enfin les Guizot, tout le monde, libéraux, communistes, etc., il dit, essayez d'imaginer ce que sera une Europe ou un monde où les rêves de ces gens-là, qui sont des rêves de petits bourgeois, se seront réalisés. Il n'y aura plus d'humanité. Ce seront des petits robots. Et nous sommes exactement là-dedans. Je vous prends un grand prophète, qui est l'un de nos mentors, que je cite sans cesse, c'est C.S. Lewis. Vous savez,
Ah
l'auteur des
bah
Chroniques de Narnia.
oui, de Narnia.
Il n'a pas fait que de la littérature pour la jeunesse. Et d'ailleurs, sa
Oui,
littérature pour la jeunesse, c'est une littérature pour les adultes
bien
aussi.
sûr, bien sûr.
Il écrivait il décrivait dans L'abolition de l'homme, qui est un tout petit livre, et en 1943, il décrivait l'anti-système d'éducation qui privait les générations à venir de toute consistance morale. Et il disait ceci: vous fabriquez des gens sans échine, des hommes sans échine, enfin, men without chest, ça veut dire des hommes sans poitrine, enfin, sans échine, on dirait chez nous. Et ensuite, vous leur demandez d'avoir des vertus et de l'esprit d'entreprise. Vous faites comment? C'est là que ça se trouve. Les causes des dérives dans lesquelles nous sommes pris aujourd'hui, elles se trouvent très, très en amont et des événements et des manifestations et des phénomènes que nous sommes amenés à observer aujourd'hui. Les causes étaient observables depuis 200 ans. Simplement, nous sommes à l'aboutissement d'une vision de l'homme qui est fausse.
Avec une grande responsabilité de la France, quand même, il y a 200
Ah
ans,
ben,
enfin un peu plus de
ah ben.
200 ans maintenant, voilà. Et on voit l'avant et l'après. Moi, j'aime beaucoup, vous savez, quand on parle de totalitarisme, donc puisqu'on vit dans ce monde totalitaire, c'est quand Jean-François Revel disait que finalement le pouvoir judiciaire était beaucoup plus indépendant de l'exécutif avant 1789. Et ça, ben ça nous dit tout en fait. Et là, on voit la porosité extrême dans nos démocraties. Là, on est arrivé, je crois, à l'apogée. Voilà, l'apogée.
Oui, exactement. Donc,
Donc il y a vraiment un avant et un après, hein.
oui, absolument. On ne peut pas se plaindre des conséquences, des idées que nous avons répandues et implantées dans les têtes à coups de marteau pendant 200 ans, alors que ces idées était fausse. Une société sans aucune valeur transcendante, une société qui ne fait confiance qu'à l'ingénierie humaine pour régler tous ses problèmes, est une société qui est dans sa vocation même totalitaire.
Alors, je pense que ce sont plus, c'est moins, je dirais, des idées et un idéal que certains ont porté que des personnes. Parce qu'en vérité, c'est là le problème, et là j'aimerais qu'on parle maintenant du totalitarisme qui gangrène et qui rejoint d'ailleurs l'affaire Epstein, hein, puisque c'est ce qui sous-tend notre émission, c'est notre fil rouge. C'est une question de personnes, c'est une révolution bourgeoise, c'est pas du tout une révolution du peuple. Et on voit l'aboutissement aujourd'hui où c'est ce qu'on pouvait remarquer aux Zinoviev ou des gens qui ont vécu le totalitarisme de l'autre à l'Est, c'est qu'il n'y a plus personne pour défendre le peuple. Même la gauche ne défend plus le peuple. Donc cette révolution bourgeoise, ça amène au totalitarisme financier, en fait. Et c'est bien d'eux qu'il s'agit.
Oui. Oui. Oui, s'il n'y a plus personne pour défendre le peuple, c'est que, d'abord, on ne sait pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que le peuple ? Vous savez, je vous ai dit, vous aimez aussi le privilège aristocratique de déplaire, mais je vais dire quelque chose qui va déplaire. Dans le peuple, si vous avez un gosse qui est doué à l'école, qui bûche, qui est un bûcheur, puis que il vous annonce après son lycée qu'il a été reçu au concours de l'ENA et qu'il va devenir un énarque, il y a très peu de familles du peuple qui vont dire mais quelle horreur, mais tu vas devenir un janissaire, tu vas devenir un flic, tu vas devenir un de ces parasites. Personne ne va dire ça, il va dire ah c'est formidable, nous avons un fils qui est énarque. Il n'est pas innocent, le peuple.
Il y a pas alors peuple. Là, vous parlez de la plèbe. Parce que aujourd'hui, alors il y avait, bon, Vladimir Volkov, alors pour revenir à lui, il dit pourquoi. Alors, il était pas, on a compris qu'il est moyennement démocrate, qu'il n'est pas républicain et qu'il est plutôt aristocrate. Voilà, donc on reprend un peu ses grands thèmes et ses livres. Aujourd'hui, vous avez un certain nombre de gens, d'ailleurs issus de l'aristocratie, enfin de ce qu'il en reste. Un peu comme le héros de votre livre Le Rayon Bleu, dont on parlera une autre fois, eh bien, qui sont encore qui ont encore une forme de vraie noblesse en eux, eh bien, parfois, ils sont énarques. Parfois, ils ont fait HEC par malheur, ou parfois, ils sont devenus. Et puis, ils sont revenus en arrière, et moi, j'en connais vraiment beaucoup aujourd'hui, qui sont des trentenaires, qui sont des cadras, qui sont revenus en arrière, qui sont devenus artisans, avec des vrais métiers. Ils deviennent couvreurs, ils deviennent charpentiers, ils deviennent bouchers. Je connais qu'ils sont bouchers. Beaucoup. Et donc, il y a aussi ce retour en arrière de... C'est ça, le peuple, en fait. C'est le paysan, c'est le gilet jaune qui se lève tôt et qui travaille vraiment. Le peuple, c'est pas la plèbe qui ne pense rien et qui ne fait rien, qui gagne 3 sous, qui sont... Et pour avoir juste le confort du canapé, de la console derrière. Voilà, je sais pas si... Donc, le totalitarisme, en tout cas, il est aujourd'hui financier. Et cette bourgeoisie qui a fait la révolution, c'est elle qui tient les manettes. Elle est passée de petit bourgeois à milliardaire. Aujourd'hui, c'est plus le patron contre le peuple, c'est le milliardaire contre le peuple. Davos, par exemple, est-ce que c'est pas l'expression à visage ouvert de cette chute occidentale sans aucune valeur et transcendance, le dernier forum de Davos, il y avait cette femme qui pérorait à moitié en état d'hystérie, d'ailleurs j'ai trouvé si on regarde les vidéos, en disant que il y avait une économie de marché, que ça faisait partie du commerce, l'air, l'eau, enfin puis tout le reste, hein, la mer, tout, c'est-à-dire tout ce qui nous a été donné, en fait, tout ce qui nous a été donné, la nature. Donc cette manière de tout marchandiser et de mettre tous les peuples de côté et de faire main basse sur le magot, quoi, enfin la terre, quoi.
C'est en même temps une caricature et en même temps l'aboutissement l'expression la plus aboutie de ce qu'est l'idéologie de l'Occident. Ce qu'est l'idée de l'Occident, a été décrite philosophiquement, notamment par Heidegger, lorsqu'il a parlé du Gestell, de l'arraisonnement de tout. L'idée de l'Occident, c'est que tout tout ce qui nous entoure est à notre disposition pour en faire quelque chose qui est à notre service. Nous sommes les maîtres de la création. Il n'y a rien au-dessus de nous, il n'y a rien à côté de nous. Les idées des docteurs, donc monsieur là, le, monsieur Schwab à Davos, elles sont ridicules. Genre, si vous lisez ces textes, la quatrième révolution industrielle, ou encore mieux le livre qu'il a fait avec un co-auteur à l'époque du Covid, ce sont des divagations de science-fiction d'un côté. Mais d'un autre côté, ce sont aussi des propos de table. C'est-à-dire que Schwab, il n'est pas très original, il a ramassé dans ses bouquins le contenu des conversations, tout simplement qu'il entend, qu'il a avec les grands industriels, avec les grands patrons de la finance, etc.
De leur petit monde.
Et dont on a un écho d'ailleurs maintenant, qui est très intéressant, dans les dossiers publiés de Epstein. Parce qu'Epstein faisait partie de ces gens qui, tranquillement, envisageaient l'arrêt de la reproduction naturelle des êtres humains. D'ailleurs, il y a une correspondance avec, sauf erreur, la reine de Norvège à ce sujet. Oui, on va pouvoir les fabriquer en laboratoire, pourquoi est-ce qu'on s'embarrasserait? Qui était très intéressé dans le transhumanisme, qui était très intéressé dans le transgender? Et c'était des sujets qui le passionnaient, il a financé des recherches dans tous ces domaines. Si vous voulez, le donjon d'Epstein, qui est une sorte de projection du rêve du marquis de Sade, c'est l'envers nocturne de la façade diurne d'un même monde qui, le jour, se réunit à Davos. Davos le jour et Epstein by night.
Ouais.
Vous voyez ? C'est le même monde. C'est le même monde, avec les mêmes idées. Vous savez, lorsque ces gens proclament qu'il n'existe aucune loi autre que celle de leur bon plaisir, c'est ce que vous entendez dans le marquis de Sade, c'est ce que vous entendez dans les propos de cet occultiste qui était l'homme le plus influent du XXe siècle, personne n'en parle, c'est Aleister Crowley.
Ben, Aleister Crowley, bien évidemment. Oui,
voilà.
Oui.
Et c'est ce que vous entendez dans la bouche de Donald Trump lorsqu'il parle des affaires internationales. Il n'y a pas de droit international, il n'y a même pas de monde réglé par des règles, dirigé par des règles. Il n'y a que mon bon vouloir. Maintenant, je veux le Venezuela, demain, je veux le Groenland. Personne ne doit s'interposer. Ça nous rappelle des discours des années 30, ça.
Ouais, c'est l'ubris. Sauf que, de la part de Donald Trump, il est possible que ce soit un jeu de poker et de bluff. C'est autre chose. C'est une manière de faire des pressions. Je pense qu'il y a aussi un petit jeu géopolitique qui n'est pas... Oui, oui. Pour l'instant, c'est à eux quand même qu'on doit une certaine dénonciation de l'IA, du wokisme, de toutes sortes de choses. D'ailleurs, si vous voulez, je peux vous faire écouter quelqu'un qui dénonce le wokisme et qui est un humoriste que j'aime énormément, qui s'appelle Naïm Laïn et qui est français d'origine algérienne. Et qui en parle très bien, et qui parle finalement d'un mal français. Voilà.
Le wokisme, l'art d'aider les minorités en faisant des choses qui ne les aident pas. On était étudiants, on cherchait une coloc, et l'agent immobilier me dit « Vous êtes algérien, vous, c'est ça ?» Moi, je dis « Oui, rapidement. » Techniquement, en fait, moi, je suis franco-algérien, mais je ne me formalise pas, je ne me suis jamais... Je ne suis jamais réellement décrit par ce que j'étais sur le papier, mais plutôt par ce que je faisais de ma vie. Je dis ça parce qu'il y a plein de gens autour de moi, dès que tu leur demandes d'où tu viens, tout de suite ils le prennent mal, je sais pas pourquoi, ils se sentent agressés, tu vois, tu viens d'où? Je viens de Bourg-en-Bresse, qu'est-ce que ça peut te faire? Ah. Ouais, mais pourquoi ils me demandent d'où je viens à chaque fois, Naïm? Ben parce que t'es Angel là-bas, abruti. C'est juste qu'ils s'intéressent, à moins que ce soit la tenue officielle de Bourg-en-Bresse. Non, parce que entre les racistes et les susceptibles, à un moment, va falloir trouver un juste milieu, parce que là, il y a une dichotomie. Alors certes, les deux comprennent pas le mot, retournez à l'école ensemble, ça va vous rapprocher. Donc oui, je suis algérien, mais le problème, c'est que j'ai mon pote, là, Thibaut. Alors Thibaut, lui, woke, ceinture noire, quatrième dan, Il a gagné tous les championnats. L'autre, il n'a pas fini de dire algérien qu'il avait déjà démarré la mobilette à wokisme. Mais ça va pas de demander aux gens leurs origines. Qu'est-ce que ça peut vous foutre qu'ils soient algériens? On va porter plainte. Voilà, j'ai calé. Voilà, j'ai calé. J'ai calé à cause de vous. Je lui dis pardon, monsieur l'agent immobilier. Excusez mon ami, il a le syndrome du blanc qui n'arrive pas à résoudre ses problèmes. Alors il essaie de résoudre ceux des Arabes. Vous voyez, c'est contre-productif. Hein. Monsieur l'agent immobilier, moi, vous me donnez l'appart, vous pouvez m'appeler Tagine, il n'y a pas de problème. Soyons pragmatiques.
Voilà. Naïm Lamine, que j'aime beaucoup, qui a toujours beaucoup d'humour et qui a beaucoup de courage, hein, qui parle de politique en France comme personne, je dois dire. Et j'aime beaucoup la mobilette à wokisme, quoi, voilà, de Thibaut, n'est-ce pas? Voilà, le mal français, avec un accent circonflexe, et sans accent circonflexe aussi, s'il vous plaît. Voilà. Sur donc le totalitarisme financier, est-ce que l'un de vous veut encore, parce que c'est quand même ça le mal, c'est Mammon, hein. Quand on parle de l'effondrement de l'Occident, aujourd'hui la valeur, la seule valeur, le seul, c'est ça, sans transcendance. Est-ce que vous voulez encore sur ce sujet?
Et que vous dire? Vous savez, l'obsession de...
Alors, on est un peu coupé là, je ne sais pas ce qui se passe. Oh là là.
C'est une inversion de la carte et du territoire.
Oui, on a été un peu
coupé. Vous m'entendez là?
Oui, on a été coupé légèrement.
Très bien.
Non, mais c'est-à-dire que sur nous, on a... c'était un peu coupé.
Je disais que... Ah voilà. Je disais que l'obsession financière qui domine en Occident, qui est devenue un grand casino, c'est une inversion de la carte et du territoire. Vous ne pouvez pas faire pousser des patates dans la carte d'un champ de patates. C'est pas possible.
Ah, il y a encore une interruption.
Vous ne pouvez pas regarder, par exemple, je vous donne qu'un seul exemple qui est-ce qu'on m'entend?
Oui, il y a des petites interruptions, oui. Je ne sais pas, qui étaient au début de l'émission et qui reviennent, là, je ne sais pas.
Oui.
Je ne sais pas pourquoi. Ouais.
Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi.
Alors, voilà. On était à l'histoire de la carpe.
Je disais un petit exemple de la carte.
De la carte. On t'entend tellement mal, c'est effrayant. On est parti dans des histoires, du coup. Je ne sais pas pourquoi ça...
Je disais que dans... vous ne pouvez pas... Vous ne... Pardon. Peut-être que le sujet est maudit, il ne faut pas commenter les affaires de totalitarisme financier.
Ah, c'est pour ça, c'est le sujet qui est maudit. Mais alors, si on invoque la grande figure de Zinoviev, oui, sur le marché, la notion de marché libre, bon, le renard libre, quoi, hein, dans le poulailler libre, bon, et la démocratie occidentale, ça peut être intéressant, sa distinction entre démocratie réelle et marché réel, et puis le marché abstrait, la démocratie abstraite, peut-être qu'en invoquant Zinoviev, là, on pourrait... Pour aller mieux, non? Ça va rétablir le fluide entre nous, là? Non plus. Alors maintenant, vous êtes figé sur l'image.
Vous savez.
Ah bon, ah, ça y est, ça va.
Moi, je vous entends très bien. Moi,
ouais,
je vous entends très bien.
Qu'est-ce qui se passe,
ouais. Oui, je vous entends très bien. Si vous m'entendez, je continue.
Oui, allez-y, voilà. Allez-y, ça y est, mais vous c'est bizarre.
Voilà. Je vais vous illustrer le problème par une anecdote liée à un sujet que nous n'avons pas abordé aujourd'hui et qui est très présent. Comment financer la guerre en Ukraine? Les Européens veulent continuer d'envoyer des centaines de milliards pour financer la guerre en Ukraine. Les centaines de milliards qui n'existent pas, mais qu'on pourrait éventuellement trouver quelque part en les volant aux Russes ou en les imprimant, ne pourraient pas faire la guerre parce qu'on sait que même si vous avez un flux d'argent infini, vous n'avez pas les capacités industrielles qui vous permettraient, avec cet argent, de produire suffisamment d'armes pour perpétuer cette guerre. Nous sommes dans un système qui est tellement financiarisé qu'il n'a plus les infrastructures matérielles nécessaires pour sa propre perpétuation, pour ne pas dire sa propre défense. Donc évidemment que nous arrivons au bout de ce système-là.
Ouais. Même en allant chercher tout l'argent sur leur compte offshore, ça ne servira à rien.
Mais l'argent ne fabrique pas des obus. Ce qui fabrique des obus, c'est des industries.
Oui. Pour venir aussi à un de mes dadas, on va pas continuer à faire pousser des choses dans un terrain qui a été traité avec les restes des poisons des dernières guerres, quoi. Donc voilà, c'est pareil. Et donc comment vont-ils se nourrir?
Tout est comme ça.
Mais qu'est-ce que c'est un manque d'intelligence, une perversion de l'esprit, une... Je sais pas, c'est
personnellement, je pense qu'une une des composantes, de nouveau, c'est un de mes sujets de prédilection.
Oui, on va conclure là-dessus.
Oui, c'est un de mes sujets de prédilection, mais je pense personnellement que l'une des composantes essentielles, primordiales du déclin de l'Occident, c'est l'épidémie de bêtises.
Ah ben voilà. Je crois qu'on va conclure là-dessus.
Nous avons affaire, oui, l'épidémie de bêtises.
Bon, alors, il faut beaucoup lire pour essayer de rétablir les choses. Et la prochaine fois, on parlera d'un livre merveilleux qui s'appelle Le Rayon Bleu, d'un autre livre qui s'appelle Le Miel. Et on écoutera du coup, Ludovic a été trop sage. Mais beaucoup trop sage, Ludovic, alors.
Mais je ne voulais pas marcher sur vos plates-bandes.
Maintenant, il fallait... Il ne nous a pas donné son mot, qu'il nous donnera la prochaine fois. Et comme il a lu Le Miel et que moi, je vais lire Le Rayon Bleu, et puis enfin, on va inverser, et bien comme ça, Ludovic, vous pourrez parler des romans et puis essayer d'impulser un peu d'intelligence, effectivement, à travers la littérature. Je crois que c'est un moyen puissant, n'est-ce pas?
Oui. Oui, je crois aussi.
Alors, l'Antipresse sur Internet, l'Antipresse en un seul mot, pour s'abonner, puisque c'est sur abonnement tous les dimanches, ça paraît tous les dimanches.
Oui.
Voilà, pour voir le monde autrement.
Oui, c'est une chronique de la vie humaine au temps des robots, comme nous aimons à le dire, et c'est sur antipresse.net.
Merci. Il y a la toxicologie du langage pour bien tout décrypter de Ludovic Joubert. Et pareil, sur Internet, vous tapez, vous allez le trouver, vous pouvez l'acheter en direct. Et puis, je vous dis, les romans sont chez Gallimard. Et puis, on se reverra pour les romans, Slobodan, comme ça.
Avec plaisir.
Uniquement avec plaisir. Sur les romans. Voilà. Là, ce sera, on se plongera dans la littérature. À bientôt. Merci.
À bientôt.
Et bon amis auditeurs, à dans 4 semaines.
Vous venez d'entendre le Libre Journal de Salza Bertin, émission préenregistrée le 13 janvier 2026, diffusée sur Radio Courtoisie, samedi 14 février de midi à 13h30 et réalisée par Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie 61, boulevard Murat, 75 016, Paris.